Madame Santa de Peut, vous êtes journaliste belge indépendante, conférencière. Vous êtes intervenue ce matin sur la conférence qui évoquait les enjeux de l'enfant dans ce monde contemporain. Vous avez évoqué votre parcours en tant que maman d'un enfant autiste. Vous avez dit quelque chose de très prenant. Vous avez dit qu'en tant que maman, il est très important qu'il fallait écouter les mamans.
Tout à fait. Je pense que, merci de revenir sur ce point-là. Je pense que la maman, c'est la personne qui doit devenir, qui doit reprendre vraiment et garder le pouvoir parental et qui doit prendre conscience que c'est elle qui va être la meilleure avocate, la meilleure experte de son enfant. Alors bien sûr, les pères aussi, mais je le vois quand même, il y a un lien spécial de la mère à l'enfant. C'est physique, il y a toute cette intuition et malheureusement, souvent, quand les enfants ont des difficultés, on se retrouve quand même vite dans des situations où la mère finit par se retrouver seule, dans 80% des cas. Donc moi, j'ai un message à adresser aux mères. Faites-vous avant tout confiance à vous-même et à votre intuition. Et très, très souvent, j'ai rencontré beaucoup de mamans qui m'ont dit « Je voulais ceci et cela pour mon enfant. Finalement, je me suis laissée influencer par... tel professeur, tel médecin, tel expert, etc. Et j'ai agi contre mon gré et ça a mal tourné. Vaut mieux regretter une décision qu'on a prise selon sa propre intuition et on va dire ses propres réflexions que de finalement regretter de ne pas avoir suivi son intuition. Aujourd'hui, c'est vraiment un vrai combat pour les parents parce qu'il y a une attaque réelle envers ce qu'on appelle l'autorité parentale. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté, et c'est même au niveau international, ce sont des programmes de l'ONU, entre guillemets, à travers ce qu'ils appellent les droits de l'enfant, la promotion des droits de l'enfant, en fait, pour eux, consiste à retirer, diminuer l'autorité parentale, notamment, par exemple, en réduisant l'âge du consentement, que ce soit pour des actes médicaux, comme la vaccination ou d'autres, que ce soit pour tout ce qui est les programmes autour de la sexualité ou ce qu'on appelle aussi tous les abus, le viol, etc. Et donc, il y a vraiment une volonté de sans cesse retirer aux parents l'autorité. Moi, je garde ce mot qu'ils ont sur les enfants, y compris dans l'éducation aussi. On voit bien que c'est de plus en plus difficile de faire l'éducation à la maison. Donc, il y a un vrai combat qui est à mener aujourd'hui. Et je pense que les mères doivent vraiment faire valoir leurs droits, parce que c'est elles qui portent la vie.
Parlez d'expérience, parce que vous avez vécu, vous êtes au cœur, et vous avez été au cœur lorsque votre enfant était petit, et vous avez mené presque... c'était une observation intégrale de ce que pouvait ressentir et les besoins de votre enfant. Vous étiez au plus proche de votre enfant.
Il faut à la fois, quand on veut vraiment qu'on a un enfant en difficulté, alors ça, c'est bon de bien sûr consulter des experts. Et quand je dis experts, ce sont des professionnels, que ce soit des médecins, des éducateurs. Mais ça peut aussi être des parents qui ont une expertise, ou même dans la famille, des beaux-parents, etc. Mais à un moment donné... il faut prendre tous ces éléments en compte et puis surtout aller observer l'enfant et voir que fait mon enfant, de quoi a-t-il réellement besoin et qu'est-ce qu'il exprime. Et souvent, on est malheureusement enfermé par exemple par les normes. L'enfant doit faire ceci, doit faire cela, etc. On veut qu'il se conforme à toutes sortes d'étiquettes, d'étapes, etc. Dont en fait, qui font pas du bien à l'enfant, ou alors à des idéologies, même par rapport à la santé. On dit que ceci, c'est bon, cela. Oui, certes, mais la première chose à faire, c'est de retrouver ce lien avec l'expérience, l'observation. Moi, je notais tous les jours tout ce que mon enfant... J'ai eu un enfant qui a régressé vers l'autisme, donc qui est parti d'un enfant tout à fait normal, qui se développait très bien, que ce soit du niveau intellectuel, le QI, le social, le comportement, et puis qui est vraiment... qui a régressé vers un état où il avait perdu la parole, tous les apprentissages, le contact social, etc. Avec beaucoup de stéréotypies, des comportements répétitifs, des hurlements, la violence, de la mutilation, etc. Vraiment, ce qui m'a aidée, c'était de noter, de l'observer tous les jours et de voir qu'est-ce que je lui ai donné à manger, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, noter le physique, le cognitif, le social. Et ça m'a vraiment aidée à le comprendre. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il faut toujours chercher à comprendre s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Le regard qu'on porte sur l'enfant est très important. Il ne faut pas se dire, avoir, vous savez, ce regard où on se dit, zut, il est pas, il est moins que, il ne correspond pas à la norme. Ces étiquettes, vraiment, sont des choses qui nous enferment. Et en réalité, quand on commence à comprendre qu'il y a une intelligence, même chez un enfant qui ne parle pas, même chez un enfant qui a vraiment l'air de ne pas avoir les chances de pouvoir tout comprendre, il y a souvent bien plus d'intelligence qu'on ne l'imagine. Et donc, ce qu'il exprime, même son corps est intelligent. Et donc, il faut chercher à se dire, OK, il est peut-être dans une situation où il a des limitations, ces limitations physiques, corporelles, pour plein de raisons, mais à travers ces limitations, ce qu'il exprime témoigne d'une certaine intelligence. Et je vais vous donner un exemple tout à fait extrême, mais qui permet de regarder les choses autrement. Chez les enfants autistes, comme ça a été le cas avec mon fils qui s'en est tout à fait sorti.
Qui fait une école de cinéma.
Voilà, aujourd'hui, il est, voilà, exactement, il fait l'école de cinéma. Eh bien, il a eu un moment où il faisait quelque chose qui est très dérangeant, choquant, on va dire. Il tartinait partout ses excréments. Parfois, il en mangeait, donc on a des enfants qui font ça. On paraît parfois des animaux aussi qui font ça. Évidemment, on regarde ça, on est choqué, on peut le voir soit essayer de l'interpréter d'un point de vue psychologique, psychanalytique, etc. Je ne suis pas nécessairement contre, mais bon, on éprouve quand même souvent une gêne et on se dit, c'est une forme de handicap, etc. On voit ça quand même avec, une forme de pitié, de tristesse. Mais le jour où je me suis dit, en fait, est-ce qu'il exprime quelque chose que je peux lire avec une forme d'intelligence derrière ? J'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, en fait, si sa flore intestinale est mauvaise, pourquoi est-ce que les animaux font la même chose ? Quand ils mangent des excréments d'autres animaux, c'est pour intégrer une nouvelle flore intestinale. Ça va modifier, ce sont des bactéries. Alors évidemment, ce n'est pas la forme souhaitable de le faire, mais en fait, le corps a fait une démarche qui, dans l'état où il était intelligente. Et je prends cet exemple extrême parce que je voudrais vraiment appeler les gens à changer de regard et à chercher à comprendre ce qui se passe plutôt qu'à s'abandonner à des diagnostics qui enferment et qui ne sont pas porteurs d'espoir. J'invite les gens, à l'époque, sur le sujet, on avait fait un congrès de 2 journées qui s'appelle Congrès sortir de l'autisme, toujours en ligne. Voilà, il y a encore des DVD. À l'époque, il y avait le docteur Olivier Soulier, il y avait professeur Montagnier, il y avait beaucoup de beau monde. Malheureusement, tous les médecins qui ont voulu nous soutenir dans cette démarche ont été harcelés, condamnés. Il y en a qui ont perdu leur... qui ont été radiés de l'ordre, etc. Mais donc, il y a toujours moyen de trouver des informations là-bas. Et il y a encore beaucoup de choses, malheureusement. Mais les solutions, il y en a, elles existent. Je ne vais pas crier au miracle partout, tout le temps. Je pense que pour nous, ça a été un miracle, mais ça vaut toujours la peine d'essayer.